Bonjour à tous. Je précise avant de commencer que je ne vais pas évoquer une restauration en particulier, mais je vais aborder le sujet d'un point de vue beaucoup plus général, en essayant de définir dans un premier temps quelle est l'approche du jouet par un restaurateur d'objets ethnographiques. Dans un second temps, quelles sont les raisons pour lesquelles on fait intervenir un restaurateur d'objets ethnographiques et dans quel cas. Et enfin, je présenterai le cas spécifique des restaurations de séries d'objets dans le cadre d'expositions temporaires. Donc, nous avons vu hier que le jouet constituait une catégorie vraiment à part dans les collections du Musée des Arts Décoratifs, car il s'agit d'une collection qui est transversale. En effet, à côté des départements plutôt chronologiques, la Renaissance, le XIXe siècle, on a des départements thématiques qui sont davantage par matériaux, comme le verre ou les arts graphiques. Le jouet, lui, traverse différentes époques et est constitué d'une très grande diversité de matériaux, ce qui lui vaut d'avoir non seulement son propre département, mais également sa propre base de données. Donc, si l'on demande à un restaurateur d'objets ethnographiques d'essayer de donner une définition du jouet, il pourrait dire qu'il s'agit souvent d'un objet composite et usuel ou issu de la vie quotidienne, marqueur d'un mode de vie à une certaine époque et qui présente des traces d'usage, porteuses d'informations et qui sont aussi importantes à conserver que l'objet lui-même. Donc globalement, on retombe peu ou prou dans la définition d'un objet ethnographique. Dans les départements jouets, d'une façon générale, nous trouvons des nounours, des poupées, des jouets à traîner, donc des objets directement liés à l'enfance, mais aussi des marionnettes, des maisons de poupées, des maquettes, des dioramas, des décors qui font déjà davantage penser à des jouets pour adultes autant que pour enfants, en tout cas. On trouve aussi des jouets optiques. Donc là, on est sur les automates, des exemples d'automates du Musée des Arts et Métiers. Voilà, les jouets optiques, des modèles réduits qui sont réalisés souvent par des compagnons ou des ouvriers spécialisés avec un souci d'exactitude des proportions et des matériaux. Donc on est là dans des collections qui sont beaucoup plus à caractère scientifique et technique. On voit qu'on commence déjà, en essayant de définir le jouet, à s'éloigner du monde purement de l'enfance. Et dans ces objets composites porteurs de traces d'usage, d'anciennes réparations, d'anciennes restaurations, on va trouver également des objets de carnaval. Là, vous avez une paire de pattes de coq, par exemple. Des objets de carnaval, des objets d'art et tradition populaire, mais aussi des objets de culte, comme des chapelles domestiques, qui ne sont ni plus ni moins, pour un restaurateur, matériellement parlant, que des poupées mises dans des boîtes vitrées, finalement. Donc, au fur et à mesure qu'on essaie de définir le mot « jouet », on voit qu'on va vers une définition qui peut être extrêmement large. Donc, le point commun de tous ces objets par rapport au restaurateur, c'est vraiment l'approche ethnographique que va avoir le restaurateur par rapport à ses jouets, c'est-à-dire le respect des traces d'usage, le respect des anciennes réparations, et là on parle bien des interventions qui ont eu lieu durant la vie de l'objet, le respect des anciennes restaurations, donc les interventions qui ont pu avoir lieu une fois le jouet entré dans les collections, dans la mesure où ces interventions ne portent pas préjudice à la bonne conservation à long terme de l'objet, elles sont dans la plupart des cas conservés. De même, autre caractéristique de l'approche ethnographique d'un jouet, c'est qu'il n'y a souvent pas ou peu de restitution des parties manquantes. L'approche sera alors plutôt dite archéologique que beaux-arts, entre guillemets. C'est-à-dire que si les lacunes ne gênent pas la lisibilité et la compréhension de l'objet, l'approche va être minimaliste et on ne rentre pas dans de la restitution. Lorsqu'il y a restitution, il s'agit la plupart du temps de consolidation, justement pas de reconstitution, qui ont un but structurel pour redonner la cohésion à un objet, par exemple. Donc pour respecter ces différents paramètres, il faut être capable de les identifier. Et dans le doute, c'est toujours le principe de précaution qui va s'appliquer, parce que les restaurations, les dérestaurations ou les démontages sont extrêmement rares, dans la mesure où il est parfois impossible de discerner avec certitude des anciennes réparations liées à l'usage, ou des restaurations faites après l'entrée de l'objet dans les collections. Donc on voit que le jouet est considéré comme un objet ethnographique à part entière, et ce sont ces grands principes qui vont avoir tendance à être appliqués, en tout cas par un restaurateur d'objets ethnographiques, quand c'est lui qui est concerné. Donc dans la pratique, lorsqu'un jouet est composé d'un matériau dominant, il est relativement simple pour un responsable des collections de s'adresser à un restaurateur spécialisé en papier, en plastique, etc. On aura des exemples tout à l'heure. Mais lorsqu'un objet est tellement composite qu'il nécessiterait l'intervention de 3 ou 4 spécialistes différents, c'est souvent le restaurateur d'objets ethnographiques qui intervient, du moins dans un premier temps. Alors il faut rappeler que contrairement à nos voisins européens qu'on a entendus hier, en France, il y a très peu de restaurateurs salariés dans les institutions et que les musées ont la plupart du temps l'obligation de faire appel à des restaurateurs indépendants. Donc, certes, quand on a 3 ou 4 spécialistes sous la main, je dirais presque dans l'institution, le problème se pose moins. Donc là, le restaurateur d'objets ethnographiques possède les compétences pour des interventions courantes sur une grande diversité de matériaux. Il a la compétence de discerner les traces d'usage, les anciennes réparations, mais surtout les interactions entre les différents matériaux. Donc ce sont ces éléments qui vont lui permettre de déterminer un degré d'intervention adapté à l'ensemble des matériaux en présence. Donc, du point de vue du conservateur, le restaurateur d'objets ethnographiques sert souvent de référent pour diagnostiquer des problématiques en cause, pour définir la nécessité ou non de faire intervenir des restaurateurs spécialisés dans le cas d'altérations complexes sur des matériaux spécifiques. Et on travaille très souvent en collaboration avec d'autres spécialités. Donc, cela permet en fait une approche homogène sur l'ensemble des matériaux, avec des compromis à faire en termes de choix d'adhésifs, par exemple, ou de méthodes de nettoyage, pour conserver au mieux des matériaux non désolidarisables. Donc le restaurateur doit trouver des alternatives aux méthodes et aux produits couramment employés pour les matériaux types, afin de les rendre compatibles avec les différents matériaux en présence. Donc sur un objet composite, comme on en voit un ici, donc sur cet automate, le degré de nettoyage, par exemple, va être défini par rapport au matériau le plus complexe à nettoyer. Donc là, on voit le visage d'un autre automate, où le visage est en porcelaine avec des rayons de polychromie à froid au niveau de la bouche, les yeux en verre, le chapeau en carton, gainé de textile avec un perlage, des plumes sur le dessus, etc. etc. Sur cet objet, on peut se dire que la céramique va être beaucoup plus facile à nettoyer, entre guillemets, lorsque l'encrassement est généralisé, que sur la plume ou sur les cheveux. Et vous voyez là l'automate, le bébé au moulin qui était à gauche, de dos sans son chapeau. Donc on voit à l'emplacement du chapeau la couleur originale des cheveux. Et en dessous, les cheveux étaient totalement gris. Donc, sachant que, suite à des tests de faisabilité, évidemment, sachant que cette partie de l'objet va être la plus délicate et la plus compliquée à restaurer, on va se baser sur ce résultat pour doser les interventions sur le reste des matériaux, puisqu'il ne s'agit pas d'obtenir un objet hétérogène et de pousser au maximum le degré de nettoyage possible sur chaque matériau. Donc, le degré d'intervention est établi en fonction du matériau qui se nettoie le moins bien, pour lequel le résultat sera le moins visible. Donc cette approche qui est transversale et globale du restaurateur d'objets composites ou d'objets ethnographiques est souvent mise à profit dans le cadre d'expositions temporaires pour des interventions minimales portant sur un nombre important d'objets. Donc la réalité des coulisses d'une exposition est souvent assez éloignée des restaurations fondamentales qui vont être développées tout à l'heure par mes collègues. Quand on évoque le traitement d'ensemble d'objets, le traitement de masse, le traitement par lot, on est bien loin de l'image la plus excitante qui soit de la restauration, et pourtant cela fait partie intégrante de la vie d'un musée et de l'histoire des collections. Il est important de ne pas occulter cet aspect plus rationnel de la conservation-restauration, qui doit s'adapter à un contexte qui est celui des expositions temporaires, c'est-à-dire la nécessité de rendre exposable un nombre important d'objets dans un délai relativement court. Donc, qui dit exposable, dit manipulable, transportable, stable et suffisamment lisible. Donc, dans un monde idéal pour un restaurateur, les expositions temporaires seraient conçues des années en amont. Le restaurateur serait consulté. J'entends déjà des sourires dans la salle. J'ai bien dit dans un monde idéal. Chaque objet ferait l'objet d'un constat d'état détaillé avec des préconisations de traitement, de soclage, etc., etc. Donc il est évident que très peu d'institutions et de collections peuvent s'offrir ce luxe en termes de temps, mais aussi de budget, et que si l'on attendait d'avoir toutes ces conditions réunies, les objets ne sortiraient pas souvent des réserves. Or, la mission de conservation et de protection des collections, qui est celle des musées, ne peut pas être dissociée de leur mission d'éducation et de diffusion. Donc là, c'est vraiment le mot « challenge » qui a été cité hier lors d'une intervention en anglais qui vient à l'esprit. Dans la réalité, le restaurateur n'est souvent qu'un maillon de la chaîne des expositions temporaires, qui arrive un peu en avance de la date d'exposition, avec des paramètres de travail comme un nombre plus ou moins défini d'objets, une trentaine à une centaine, un budget plus ou moins limité. On sait qu'on va avoir une semaine à deux semaines maximum de restauration. Et dans un temps, évidemment, dans un délai assez court, parce qu'après la restauration vient l'emballage, le soclage, le transport, le montage de l'exposition. Donc le restaurateur pourrait se dire, soit j'effectue une restauration fondamentale, avec des retouches, de lacunes, de polychromie, un rapport unitaire par objet, avec une mise en page des photographies, ou, c'est-à-dire ça correspondrait dans le temps imparti à restaurer un ou deux objets. Le souci, c'est qu'il y en a souvent plus 50 que 2. Quand on parle de jouets, on parle souvent de série 1. Ou alors le restaurateur adapte sa façon de travailler, c'est-à-dire le degré d'intervention et les outils de travail, pour intervenir de façon cohérente en collant un maximum avec la déontologie de la conservation-restauration. Donc là, je crois que le mot compromis est vraiment une notion essentielle concernant l'adaptation du degré d'intervention. Cela impose d'avoir une vision globale pour aller à l'essentiel et d'établir des priorités d'intervention. Donc là, on a deux exemples d'objets en bois polychrome. Donc le premier, c'est cet éléphant, qui est une polychromie beige ou jaune pâle sur fond blanc. Je ne sais pas si on discerne les lacunes. Oui, on voit quand même qu'au niveau de l'arrière-train, il y a des lacunes de polychromie qui laissent apparaître le fond blanc. Il y a également des soulèvements mobiles de polychromie au niveau des roues. Là, c'est un détail de lacune de polychromie avec soulèvement au niveau d'une roue. Et en lumière rasante, on s'aperçoit que les soulèvements sont mobiles et ne sont, donc ce qui dit mobile dit pas stable, et donc pas en état d'être exposé. Donc sur cet objet, par exemple, le choix, le compromis, a été de refixer toutes les écailles de polychromie mobile sans rentrer dans de la restitution des lacunes. Dans la mesure où les lacunes de polychromie ne gênaient pas à la lisibilité sur cet objet, puisque le contraste entre la sous-couche et la polychromie beige n'était pas assez élevé pour provoquer une gêne ou une entrave à la compréhension de cet objet. Donc on s'en est tenu à un refixage, l'essentiel étant de ne pas perdre d'éléments ou d'informations lors de la mise en exposition de cet objet. Il est évident que si le temps imparti le permet, et si c'est la volonté du conservateur, le restaurateur va pousser la restauration jusqu'à réintégrer des lacunes de polychromie qui seraient avérées gênantes. Ça va être le cas, par exemple, sur un autre jouet à peu près du même type. Donc, ce jouet à roulettes en bois polychrome. Donc là, c'est la vue après restauration, où il présente, ma foi, quelques altérations, mais pas une grosse gêne de lisibilité. Et en fait, si on prend le visage avant, on s'aperçoit qu'on voit plutôt, pas un zèbre, je dirais, mais là, les lacunes de polychromie commencent à devenir assez gênantes. Elles accrochent en tout cas le regard et on a tendance à se concentrer sur les lacunes plutôt que sur l'objet. Donc là, on va rentrer dans un degré légèrement au-dessus. Je dis légèrement, c'est-à-dire qu'on va effectuer non seulement un refixage des soulèvements mobiles, mais un léger jus coloré, c'est-à-dire pas de remise à niveau des lacunes, mais un simple jus à l'aquarelle, qui va permettre de redonner une cohésion d'ensemble. Donc là, on est dans une intervention souvent dite semi-illusionniste, qui permet de redonner la lisibilité à l'objet sans rentrer dans une restauration qui serait trop longue, donc des restaurations dites fondamentales. Donc ça, c'est un exemple de compromis sur les degrés d'intervention. L'autre compromis qui doit être fait par le restaurateur dans le cas précis des expositions temporaires et face à un grand nombre d'objets, donc là, je vais sortir quelques secondes du diaporama pour vous montrer un autre document, pas très palpitant non plus, mais très utile. Donc, au lieu de rédiger un rapport de restauration unitaire par objet, on peut aussi travailler, dans le cadre de série, sur un simple tableur Excel, par exemple. où on va saisir toutes les informations liées aux interventions. Donc il ne s'agit pas de ne pas faire de rapport pour gagner du temps. La documentation des interventions est essentielle à la gestion à long terme des collections. C'est une notion sur laquelle le restaurateur ne peut pas faire d'impasse, même sous les conditions telles que peuvent l'être les expositions temporaires. Donc cette information, il va simplement falloir la gérer autrement. Donc l'important, c'est de la transmettre, de l'archiver, et peu importe son format. Donc il s'agit donc de trouver une façon performante de consigner les informations telles que la date, les types d'interventions, les produits utilisés. Donc le tableau, évidemment, peut être aménagé à chaque collection, à chaque typologie d'objets. On a toutes les informations clés qui sont les références, les numéros d'inventaire, la dénomination, les matériaux, les dimensions. On va avoir le champ des altérations et ne sont remplies que les cases nécessaires en développant plus ou moins avec des localisations. Dans le champ intervention de restauration, on a la date, dépoussiérage, gommage, une simple croix suffit à savoir que cet objet a été dépoussiéré. Et par exemple, dans le champ consolidation d'éléments mobiles ou de soulèvement de polychromie, on va préciser l'adhésif utilisé. Il en est de même pour les photos. Il n'est pas question de faire l'impasse sur des prises de vue avant-après restauration en se disant « je n'ai pas le temps ». Il suffit en début de chantier, entre guillemets, de s'installer un petit coin photo rudimentaire sur fond gris avec une lumière blanche, une lumière du jour. Ça prend 10 minutes, ce qui nous permet d'effectuer les photos à la chaîne, en série. Et ces photos, si on ne peut pas se permettre de passer trop de temps à les traiter, donc le fait d'être sur fond gris avec lumière du jour, ça économise déjà le traitement des images ultérieures, et les restaurateurs savent que le temps passé au traitement des images et à la rédaction des rapports peut être considérable. Donc là, effectivement, peut-être que le cadrage ne va pas être optimum, mais l'information est là, et c'est ce qui est important. Et ces photos, elles peuvent être basculées sur un CD, classé par numéro d'inventaire des objets. Donc les informations sont là, elles sont disponibles pour le conservateur et pour les archiver, pour les avoir à long terme au niveau du musée. Donc c'est une approche qui est assez semblable finalement de celle qui peut être rencontrée en archéologie quand on traite des objets par lot. On retrouve aussi cette approche en conservation préventive où on ne va pas traiter de la même façon 30 objets ou 300 000 objets dans le même temps. Le restaurateur peut se dire que s'il a 30 objets à traiter, il va pouvoir avoir le temps d'effectuer une fiche type par objet avec l'insertion d'une photo avant-après. S'il se retrouve dans le même temps avec 300 objets, il va peut-être se diriger davantage vers des options ou des outils de travail comme un tableur Excel avec un archivage numérique des données. Donc le rôle du professionnel est de faire ressortir de cette masse d'informations des choses importantes et de travailler toujours en collaboration avec les régisseurs, les conservateurs et tous les autres protagonistes des expositions temporaires. C'est aussi son rôle de savoir se positionner dans ces compromis et de savoir faire sortir du lot un objet, ou deux, ou trois, qui ne serait pas en état d'être exposé après une intervention minimale, parce qu'il serait trop fragile, trop instable, et qui nécessiterait une intervention fondamentale. Donc c'est aussi le rôle du restaurateur de savoir faire les compromis au bon moment et pour les bons objets. Je ne vais pas terminer sur cette image pas très glamour du tableau Excel. Je vais vous remettre une petite dernière image d'un automate du singe fumeur des collections des arts et métiers, qui est vraiment un objet ethnographique type, avec toutes ces problématiques. Donc pour conclure, je dirais simplement que si on reprend les mots-clés de mon intervention, on voit des notions comme compromis, budget, délai, intervention minimale, traitement par lot. On s'aperçoit que ça ne fait pas rêver comme le thème du jouet, mais les coulisses d'une exposition temporaire, c'est aussi ça. Et oui, on est un petit peu loin parfois de la magie, du fun et du cool qui a été évoqué hier par les autres intervenants. Mais je crois que ce qui est très important, c'est que quand on parle d'un côté de conservation et d'un autre côté de restauration, le mot en fait qui résumerait cette approche et ces compromis, c'est vraiment le mot, donc en un seul mot, avec un tiret au milieu, de conservation-restauration. Voilà.